Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations grâce à Samzati Masandi. À la une de l'actualité ce soir, Constant Mutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Verdict rendu cet après-midi par la Cour de cassation ici à Kinshasa Gombe. Le dialogue sur la paix, la stabilité et l'intégration africaine organisé par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud s'ouvre ce mercredi 3 septembre. Il mettra un accent particulier sur la République démocratique du Congo. Si le gouvernement congolais a décliné cette invitation, d'autres acteurs politiques, notamment de l'opposition, y prendront part. Mais qui sont-ils à suivre? Augustin Mulongoi Masandi, chef de station de l'Institut National pour l'étude et la recherche agronomique INERA Salubezia au Maniema, est notre invité. Il s'exprime sur la production de 5 tonnes de semences de base. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Ce journal s'ouvre par le procès Constant Mutamba. 3 ans de travaux forcés pour détournement des fonds sans possibilité de libération conditionnelle. C'est en tout cas le verdict de la Cour de cassation prononcé ce mardi contre l'ex-ministre de la Justice. L'homme politique écope également de 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Retour sur cette affaire avec vous, Poli Mouzalia.
L'ex-garde des Sceaux était jugé pour le détournement de 19 millions de dollars. Des fonds destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. En plus de sa peine de travaux forcés, il lui est interdit d'exercer des fonctions publiques pendant 5 ans, une peine jugée excessive par Maître Paul Okito, l'un des avocats de la défense.
Aujourd'hui, il écope une peine sévère, beaucoup plus sensible quand c'est la privation des droits politiques. C'est la partie la plus... Pour moi, les 3 ans, oui, on paye, peut-être après 20 mois, on peut demander, mais 5 ans d'inéligibilité pour quelqu'un qui a 36 ans, c'est-à-dire il doit se projeter peut-être à 45 ou 48 ans. Et pourtant, Mutamba écarte aujourd'hui l'espoir d'une nation, l'espoir d'un peuple libre.
Ce procès sous haute tension a vu son verdict repoussé à 2 reprises. Lundi, à la veille de l'annonce du jugement, Constant Mutamba avait été placé en résidence surveillée. Ce mardi, il a été conduit à la Cour de cassation à bord d'un véhicule militaire blindé sous une forte escorte. Durant son procès, l'ex-ministre de la Justice a toujours clamé son innocence, s'estimant victime d'un règlement de compte politique.
Nous l'avons dit dans les titres, le dialogue sur la paix, la stabilité et l'intégration africaine organisé par la Fondation Thabo Mbeki divise la classe politique congolaise. En effet, le gouvernement et certains partis politiques ont décliné l'invitation de l'ancien président sud-africain, tandis que d'autres y ont répondu positivement. Ce dialogue, qui mettra un accent particulier sur la RDC, va se tenir du mercredi 3 au samedi 6 septembre en Afrique du Sud. Alain Rongomouchinge revient sur les différentes positions face à cette initiative de la Fondation Thabo Mbeki.
Dans une interview accordée à Radio Okapi la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya juge inopportune l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki.
Cette fondation n'a aucun mandat pour penser pouvoir s'improviser dans un cadre où des discussions sont déjà en cours, Washington, Doha.
Pour sa part, l'opposant Martin Fayoulou, sans clairement décliner l'invitation, appelle plutôt la Fondation Thabo Mbeki dans une correspondance à accorder la priorité au processus de Kinshasa porté par les autorités religieuses congolaises, cela en encourageant la participation de l'ensemble des acteurs nationaux sans exclusive. Il rappelle aussi l'initiative de l'Union africaine. Les opposants Moïse Katumbi du Parti Ensemble pour la République, Jean-Marc Kaboun de l'Alliance pour le Changement, ont choisi de répondre favorablement à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki. Une chose reste certaine, chaque fois qu'il s'agira de parler paix, Ensemble pour la République répondra toujours présent, écrit Maître Hervé Diakese, son porte-parole, sur son compte X. D'autres sources concordantes affirment que les opposants d'Eli Sesanga et Seth Kikuni seront également de la partie en Afrique du Sud.
Santé à présent. Ici à Kinshasa, des nouveaux cas de choléra et décès sont signalés dans la zone de santé de Massina, plus précisément dans l'aire de santé abattoir 2. Face à cette situation, la population lance un appel urgent aux autorités pour obtenir des vaccins. C'est ce que nous dit Stanislas Diumi dans son reportage.
Nous sommes dans la commune de Massina au quartier Petro-Congo où l'épidémie de choléra sévit encore. À en croire, plusieurs habitants, des enfants et des adultes meurent du choléra chaque jour. La cause principale de cette épidémie est la consommation d'eau de la rivière Njili qui est fortement contaminée. Madame Bijou, membre de relais communautaire et habitante du quartier, témoigne de la détresse de la population.
Nous ici, nous n'avons pas que la polio. Il y a le choléra qui sévit. Les gens meurent, que ce soit le maire ou même les enfants.
De son côté, Madame Rose, une autre habitante du quartier, dépeint les conditions de vie difficiles qui favorisent la propagation de la maladie.
Nous utilisons l'eau de la rivière Njili, là où ils ont cassé. Cette eau que nous utilisons nous donne des microbes.
L'infirmier titulaire de l'aire de santé abattoir 2 explique que l'état impraticable de route complique davantage la situation.
Par rapport à notre aire de santé, la route est impraticable. Des deux, nous rencontrons une difficulté de sortie. C'est pourquoi nous demandons que ces tronçons soient terminés pour trouver des solutions urgentes.
Sans fournir davantage de précisions, le programme élargi de vaccination à Kinshasa indique que des mesures globales pour endiguer cette épidémie seraient en cours.
Sud Kivu, les organisations de la société civile des Kigulube, entité située dans le groupement Bamuguba dans le territoire de Shabunda, dénoncent la recrudescence des cas de séquestration visant les prêtres dans cette région. Ces structures affirment avoir identifié au moins 3 cas rien que pour le mois d'août. Elles pointent du doigt des hommes armés assimilés au Wazalendo comme auteurs de ces actes ciblant les prêtres catholiques ainsi que certains habitants le long de l'axe Burale-Shabunda. La société civile appelle à l'ouverture d'enquêtes afin d'arrêter les responsables. Suivez l'un des acteurs de la société civile locale, joint par Onelin Tibonera Idiami.
Au vu de tous ces actes insensés faits à l'égard de nos 3 abbés, la société civile de Kigulube présente des sincères compassions à tous nos 3 abbés victimes de tous ces actes inhumains. En définitive, la société civile prend à témoin la communauté nationale et internationale que tout passant en cette période sur les tronçons routiers Burale et Shabunda qui est pris en otage et est victime de ces tracasseries sans distinction des rangs sociaux ou catégories sociales. La société civile condamne toutes celles ou tout celui qui, par la haine, publie des audios et SMS dans des réseaux sociaux, impliquant certains notables d'être partisans de ces violences, et cela dans le but de brouiller et effacer les traces des enquêtes.
Par ailleurs, à Ituri, le projet Réponse Rapide de l'UNICEF a bouclé samedi sa campagne d'assistance humanitaire en faveur de près de 5 800 familles déplacées dans la zone de santé de Lita, territoire de Djougou. Selon Trésor Muyumba, chargé de communication de l'ONG PPSSP, cette opération vise à offrir un nouveau souffle aux populations qui ont tout perdu dans les récentes violences armées du mois d'août. Les détails avec vous, Jean-Claude Loki Dile.
Chaque ménage a reçu un kit complet, ustensiles de cuisine, pagne, couverture, nattes et autres articles de première nécessité. Une attention particulière a été accordée aux femmes et aux adolescents. Trésor Muyumba, chargé de communication à l'ONG PPSSP.
Ces déplacés ont été assistés à un abri léger, des seaux de 20 litres, des barres de savon de lessive, des savons de bain, kit d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréation, plus de 4 800 filles adolescentes ont reçu aussi des kits d'hygiène intime, à part ce qu'on a donné dans chaque kit. Cette assistance est vraiment dans l'objectif d'apaiser tant soit peu la souffrance de cette population déplacée.
Parmi ces déplacés, l'émotion est palpable après avoir tout abandonné derrière eux.
Nous venons de l'Opa où nous avons fui précipitamment, mais sans rien porter. Cette aide nous redonne de l'espoir. Nous demandons que ce soutien continue car les besoins restent énormes.
Dans une province encore secouée par les conflits et les déplacements massifs, cette assistance est une véritable bouffée d'air pour des milliers de familles qui attendent retrouver un jour une vie normale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Au Congo central, le commissaire divisionnaire principal, le commissaire général de la police, condamne avec fermeté la destruction des infrastructures de la police dans la ville de Boma le jeudi 28 août par la population. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, Benjamin Alongabouni, qui séjourne à Boma, au Congo central bien sûr, pour mener des enquêtes administratives, notamment sur les causes de l'insécurité dans cette ville et sur les tueries issues des affrontements entre policiers et population qui ont eu lieu à Boma le même jour, le même jeudi 28 août, souligne que les infrastructures de la police font partie des biens publics que la population doit respecter. Le commissaire général de la police, Benjamin Alongabouni, dans ses propos recueillis par Nana Plurichimambo.
Vous avez des bureaux de police qui ont été saccagés à travers la ville de Boma. Ces bureaux-là, aujourd'hui, vous demandez qu'on vous augmente les effectifs pour votre travail. Vous avez complètement détruit les bureaux. Ne pensez jamais que les Chinois ou les Américains en ont fait le rôle de la police au Congo. Non. La sécurité de la population congolaise sera toujours assurée par les policiers congolais. Vous savez, la police, elle est encore jeune. Elle se recherche pour pouvoir incarner sa personnalité sur la population. Mais au moindre couac, les bureaux de police sont saccagés. Et si nous ne respectons pas à travers la République les bureaux de police, les matériels de police, les matériels roulants, tout ça, nous détruisons. Mais ce sont des pertes que l'État a subies. Donc j'en appelle à la conscience de tous les Congolais, tous les Congolais du pays, à pouvoir respecter les biens publics, notamment les édifices publics, les postes de police, les bureaux de commissariat. Lorsque vous avez un différend avec l'État, ce n'est pas au bureau de la police que vous allez vous entendre, non. Parce que tous ces délinquants qui ont détruit le bureau de poste et consorts, constituent des bases de certains politiciens. Les élus du peuple, tant national que provincial, ont le devoir d'éduquer leurs bases au bon sens. C'est ça notre problème au Congo. Quand on est parti politique, on se permet tout. À détruire, à insulter, à brûler. Non, c'est ça, c'est l'incivisme. Or, un pays ne sait pas évoluer par les inciviques. Non.
Direction la province du Kassai Oriental, où la société civile du Congo Sosiko, coordination du territoire des Miabi, déplore la suspension depuis bientôt une année des travaux de construction du pont Loubi par l'Office des routes. D'après son coordonnateur, il y a rareté de certains produits manufacturés dans les secteurs des Tchidjiba. Quelques élèves du groupement des Benanganza sont bloqués à la maison pour éviter de chavirer avec les pirogues sur la rivière Loubi. L'Office des routes dit attendre les financements pour achever les travaux de construction de ces ponts. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le pont Loubi se trouve sur la rivière du même nom. Il relie le groupement de Benanganza à Tchidjiba Centre, lieu où est érigé plusieurs infrastructures publiques et médicales pour les communautés vivant dans la partie sud du territoire de Miabi. C'est depuis une année que l'Office des routes a suspendu les travaux de construction du pont Loubi, rendant encore plus difficile le passage des véhicules et des piétons. Quelques matériels sont toujours sur place, mais déjà les conséquences sont enregistrées, affirme Christopher Kawaya, coordonnateur de la Sosiko Miabi.
Pendant la rentrée ici, il est difficile aux élèves de pouvoir passer, faute de pont. Et aussi les risques même qui courent, la vie du paisible citoyen est impactée maintenant. Il n'y a pas d'échanges commerciaux. Avoir même accès à un verre de cidre parce que la boutique est au-delà de la rivière. La vie devient dure.
Contacté, Marcus Okita Soucha, directeur provincial de l'Office des routes, dit attendre le moyen financier pour achever les travaux.
Jusqu'à présent, nous faisons des rapports, nous attendons la suite de financement pour continuer et terminer.
En attendant la fin des travaux, les véhicules font les détours en empruntant la route de Boya, de Bakwansumba ou encore de Chilundu pour atteindre la ville de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa et pour parler de ces préoccupations des passagers du train urbain de l'Onatra. Ils signalent des incidents techniques à répétition ces derniers temps. C'est notamment le fait que la locomotive se détache des wagons. Le dernier cas est intervenu ce mardi matin. Suivez ces passagers qui lancent un appel à l'Onatra au micro de Babel Mpongo.
J'ai pris le train urbain à la gare de Riflar comme d'habitude, arrivé au quartier Kaweléa Limité, près du quartier Pakadjuma. La locomotive s'est détachée des wagons. Elle a poursuivi sa course sur une distance de près de 100 mètres avant de commencer à reculer. Et nous avons commencé à avancer tout doucement, à pas de tortue, jusqu'à prendre de l'élan plus loin. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, mardi, c'est arrivé une fois. Hier, lundi, c'est pratiquement 4 fois. Nous ne comprenons pas. En ce 21e siècle, où d'autres pays sont déjà très avancés en matière de transport, chez nous, même les wagons dont nous parlons ne sont plus en bon état. Il n'y a pas de lumière, pas de sièges. Les sièges sont cassés, sales. Ce sont des bouts de métaux qui sont visibles. Même la locomotive semble datée d'une autre époque.
Du côté de l'ONATRA, on affirme être dans un vaste projet de modernisation des équipements et du renouvellement des locomotives et voitures. Quant aux incidents signalés, on promet de se prononcer à ce sujet dans les heures qui suivent, le temps de rassembler tous les éléments à ce sujet.
Actualité internationale.
Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Volker Türk, dénonce ce mardi 2 septembre les restrictions de l'espace civique et démocratique au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Le haut-commissaire de l'ONU s'inquiète du climat préélectoral dans ces pays à moins de 6 semaines de la présidentielle. Volker Türk s'exprime dans un communiqué disponible en ligne ce 2 septembre. Il appelle les autorités de Yaoundé à agir vite pour garantir un environnement propice à une élection pacifique, inclusive et crédible.
L'invité.
Il s'appelle Augustin Mulongoi Masandi, chef de station de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Saloubieza. Il nous parle de la production de 5 tonnes de semences de base, production rendue possible grâce à l'accompagnement de ses partenaires. L'ingénieur Augustin Mulongoi Masandi s'entretient depuis Kindu Maniema avec Florence Kizalonga.
Monsieur Augustin Mulongoi Masandi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Quelle stratégie, quelle méthode pour arriver à produire aujourd'hui 5 tonnes de semences?
Merci pour la question. Au fait, je vous dirais que l'INERA Saloubieza, pour la petite histoire, avait reçu une quantité de matériel composé de matériel aératoire et la quantité de semences de pré-base. Ça a permis à la station de pouvoir faire la production de 5 tonnes de semences de base.
Qui vous a doté de ces matériel et semences?
C'est le programme PADRIR qui nous a doté les matériels aératoires et les objets qui nous ont toujours servi pour les travaux cultivaux.
Il s'agit là de 2 tonnes pour le maïs et 3 tonnes pour le riz. Qu'est-ce que vous, INERA Saloubieza, vous avez fait avec toutes ces semences?
Vous savez que nous sommes une institution de recherche agronomique dont les rôles et les attributions sont de faire la production des semences de pré-base, la semence de base. Au-delà de ça, nous avons le rôle de faire la recherche agronomique afin de mettre au point les semences, ou soit des nouvelles variétés de semences qui doivent quand même être présentées auprès de la population. Qui, à notre tour, nous devons mettre cette semence de base auprès du programme PADRIR. Et c'est le programme PADRIR qui a maintenant l'obligation de pouvoir distribuer ça auprès des agri-multiplicateurs de la province du Maniema.
Quand vous mettez à la disposition des PADRIR, c'est gratuitement ou bien vous êtes en train de vendre ça à PADRIR?
Avant d'abord la production, nous faisons quand même la rédaction d'un protocole. Donc, nous, quand nous produisons la semence, nous mettons à la disposition du programme PADRIR. Le programme PADRIR essaie un peu de racheter la semence que nous avons reçue. Donc, en quelque sorte, nous faisons le rachat de la semence.
Alors, pour cette première production de ces 10 spéculations, ça a été la semence de base. Vous, INERA Saloubieza, vous n'avez pas encore eu la chance de bénéficier des semences de souche.
Vous êtes sans ignorer que nous sommes une station de recherche agronomique, une très jeune station. Et pour cela, nous n'avons pas encore reçu jusque-là l'autorisation de pouvoir mettre au point les semences de souche et les semences de pré-base. C'est pour cette raison que nous avons sollicité auprès du programme PADRIR pour dépêcher un chercheur de l'INERA Saloubieza qui est allé faire la collection des semences de souche et la semence de base dans les centres et stations. Les chercheurs qui étaient dépêchés étaient allés rendre visite au niveau de l'INERA Mvoisi et la station de Gimbi au Congo central. Et il a fait aussi une visite au niveau de l'INERA Boketa dans la province de Sidobangue. Et de son séjour, il a eu quand même la chance de collectionner les semences de souche et les semences de base. Donc, nous avons reçu au total au moins 3 kilos de semences de souche. Et quand nous parlons des semences de souche, nous voyons les matériels génétiques qui vont permettre à ce que la station puisse décoller et faire une production de façon durable des semences de base et les semences de pré-base.
Pourquoi alors PADRIR ne vous appuie pas en semences de souche?
Une question très intelligente. Vous savez, dans l'INERA, il y a une structuration. En fait, le partenaire ne peut pas mettre à disposition d'une station de recherche les semences de souche. La mission principale de la recherche, c'est pour peut-être arriver à mettre au point les nouvelles variétés. Et donc, PADRIR étant un partenaire, il n'a pas vraiment qualité de pouvoir doter à la station INERA Saloubieza le matériel comme semences de souche.
Pour avoir ces 5 tonnes, on a investi combien chez vous?
Pour avoir les 5 tonnes, nous avons réussi, en termes de semences de pré-base, nous avons réussi 278 kilos. Tellement qu'au niveau de la station, il y a des conditions climatiques qui ne sont pas vraiment réunies. C'est pour cela que la production n'avait pas atteint les souhaits que nous avions par rapport aux normes de production des semences.
Pour que vous arriviez à la production souhaitée, aux résultats souhaités, qu'est-ce qui vous manque?
Présentement, il faudrait qu'il y ait quand même la mise en disponibilité des engrais chimiques. Au-delà des engrais chimiques, nous devons vraiment activer la main d'œuvre qui a toujours aidé. Parce que vous savez, la situation de notre station, nous ne sommes pas encore jusque-là mécanisés.
Aujourd'hui, INERA Saloubezia est maintenant dans la production pour la conservation de ces semences. Est-ce que votre laboratoire est déjà opérationnel?
Jusque-là, non. Nous avons encore un petit souci par rapport à la conservation des semences que nous obtenons. Des fois, on arrive à produire, mais on est obligé. Comme on n'a pas les laboratoires, on recourt à la maintenance variétale. C'est toujours un cri d'alarme que nous avons toujours lancé auprès de nos partenaires, qui peut quand même songer à mettre quand même au sein de notre station un laboratoire qui va nous permettre de pouvoir mener des recherches à bon terme et aussi faire la conservation des semences.
Monsieur Augustin Moulongoi Massandi, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Notre invité était avec Florence Kiza Lunga depuis Kindoumaniema. 18h20 ici à Kinshasa. Par ici s'achève ce Radio Journal, mise en onde par Jean-Claude Nsiala. Moi, Nama Kengonsoalo, la coordination de Richard Junior Kamunga sous la supervision de Pauline Mouzalia. Merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur www.radiokapi.net.